Avec Jean Devaux, midi 28 minutes. Jean, on va y revenir à la question de l'aéroport tantôt, mais on va commencer tout de suite avec la question qu'on a déposée sur notre page Facebook aujourd'hui à propos d'un point de presse présenté demain. Les attentes sont élevées, tu t'en souviens, là, M. Legault dit « Attendez, là, le mardi de la semaine de relâche, là, pour ce qui est des régions qui se trouvent en rouge, là, on aura peut-être des affaires intéressantes à vous dire. » Alors, on a déposé une question sur notre Facebook et je peux te dire, on demande aux gens à quoi ils s'attendent demain. Et il y a des gens qui s'attendent absolument à rien. Il y en a qui disent que c'est de la bullshit, de la bouillie pour les chats. Il y en a d'autres qui disent on devrait passer en zone orange. D'autres vont dire parce qu'il y a les migrants qui sont toujours très, très présents pour protéger la Mauricie, les méchants migrants de la région de Montréal. On va demeurer en zone rouge. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, je pense qu'on va rester comme on est là jusqu'à la fin de la période de relâche. Selon moi, le gouvernement va annoncer demain qu'il va y avoir un déconfinement partiel dans notre région à partir de la semaine après la semaine de relâche, dans deux semaines, autrement dit. Je pense que les restaurants pourraient sûrement rouvrir, peut-être même les gyms, peut-être quelques activités qui, pour l'instant, ne sont pas disponibles, mais le gouvernement va attendre de voir une semaine après la semaine de relâche quels sont les effets de la semaine de relâche. Et à ce moment-là, il pourra toujours, comme il l'a déjà fait auparavant, il pourra toujours reculer d'un pas et dire « Non, finalement, on va rester comme on est là ». Je pense qu'il va nous annoncer des bonnes nouvelles demain, même des bonnes nouvelles qui vont commencer seulement dans 15 jours. C'est ce que je pense.
Je ne sais pas si tu as entendu l'entrevue qu'a donnée, entre autres, à notre collègue Louis Lacroix, le premier ministre Legault. Lui, il se donne quand même une bonne note pour la gestion de la pandémie.
Ben moi, je pense que la gestion de la pandémie, là, premièrement, il faut le dire, là, tous les gouvernements ont été pris les culottes à terre. On s'entend là-dessus, là, que ce soit autant au niveau international qu'au Québec puis au Canada. Là, je pense qu'ils ont pas mal tout fait le possible. Leur possible. Il y a eu la grosse, grosse erreur ici, ça a été vraiment le drame des CHSLD dans la première vague, alors que le gouvernement avait décidé de tout mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire de vraiment s'occuper des hôpitaux pour que les hôpitaux ne soient pas victimes d'éclosion. Et on a carrément laissé tomber là, toutes les procédures là, qu'on aurait dû implanter là, pour les CHSLD. Et ça, c'était une erreur monumentale. Bon, qui en est responsable? Je pense que c'est tout le monde et personne, dans le sens que notre système de santé était déjà fragilisé depuis des années, on le disait. Il était déjà sous le nombre d'employés nécessaires. Les CHSLD, on le disait depuis des années, comment il y a eu de rapports qui ont été tablettés qui disaient à quel point la situation était horrible. Tu sais, des histoires d'horreur là, dans les CHSLD, là, ça date pas là, de la pandémie, Robert, tu sais, ça date de longtemps. Donc, moi, je te dirais que le gouvernement a une responsabilité, c'est certain, dans le choix des initiatives qu'il a faites, surtout de privilégier seulement le système hospitalier et de délaisser un petit peu là, les CHSLD. Mais grosso modo, là, tous les gouvernements du Québec depuis 30 ans ont laissé tomber le système de santé. Et la réforme Barrette, on dira ce qu'on voudra. La réforme Barrette, veut pas, a été le dernier clou sur le cercueil du réseau avant la pandémie, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment tout centralisé dans quelques directions régionales avec des dimensions totalement ingérable, des DG qui avaient des 15, des 17, des 20 établissements, des CHSLD avec aucun responsable efficace. Donc, ça l'a juste accentué encore plus le sentiment de panique quand tout a, comme on dit en bon québécois, quand tout a débrété.
Là, je vais emprunter cet argument-là à Nathalie Normandeau qui disait, lorsqu'ils sont arrivés, la CAQ, au pouvoir, avec les surplus énormes dans la caisse, au lieu de revoir le salaire des préposés aux bénéficiaires, puis de régler le problème des infirmières et tout ça, ils ont choisi de baisser les taxes scolaires, là, hein, puis de régler ce problème-là, alors que les problèmes de la santé étaient criants, puis ils ont regardé ailleurs que là, alors qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions.
Bien, ils ont fait comme tous les autres gouvernements, Robert. Là. Gouvernement libéral de Mme Normandeau, en passant, le gouvernement péquiste aussi. Ils ont toujours regardé ailleurs parce que c'est pas rentable d'investir dans le système de la santé, là. Comme ça l'est maintenant. Là, maintenant, ça l'est rentable. Ils vont le faire, là. Mais avant ça, c'était pas une priorité. Comme c'est pas rentable non plus d'investir dans les tuyaux d'égout dans une ville, mais sauf quand ça pète, là, c'est rentable. C'est la même chose. Là, le système, il a pété. Là, on le sait que c'est important à cette heure. Là, ça va se faire. Mais la politique, Robert, c'est toujours de s'occuper des problèmes les moins pressants, mais qui donnent le plus de votes. Ça, c'est la définition.
Ouais, mais il était quand même au début de leur mandat, là.
Oui, mais je veux dire, il n'y avait pas de presse. Écoute, ça faisait 30 ans qu'on se foutait des vieux. Pourquoi s'en occuper? Tu me suis? Là, maintenant, on peut plus dire ça. Mais à l'époque, là, demande à n'importe quel politicien à quel niveau d'intérêt il plaçait la FADOC. C'était pas haut. OK? Mais m'en dis aujourd'hui, À quel niveau il place la FADOC? À quel niveau il prend là tous les comités de soutien aux malades? À quel niveau il s'occupe maintenant des avis des gens dans le communautaire? Parce que c'est eux autres qui, à bout de bras, ont vraiment tenu le système de broche à balle qu'on avait, qui s'est effondré avec la pandémie. Si on n'avait pas eu ces gens-là, si on n'avait pas eu les cuisines populaires, si on n'avait pas eu les OSBL, si on n'avait pas eu tous ces gens-là pendant du mois de mars au mois de juillet à peu près, là, le gros de la crise, là, t'imagines-tu ce qu'on aurait eu comme dommage encore pire? Donc là, maintenant, le gouvernement, il n'a pas le choix de les écouter parce que ils ont sauvé les fesses. Carrément, là. Disons les choses, c'est ça qui est arrivé, là. La dynamique gouvernementale, là, par rapport aux projets futurs puis aux problèmes à régler dans le futur, là, elle a changé, Robert. Là, on va s'en occuper de la santé. J'espère juste qu'on va définir les besoins comme il faut avec tous les intervenants pour pas que dans 2, 3, 4 ans, quand la situation pandémique va être plus sous contrôle, qu'on tombe pas dans nos anciennes habitudes. Parce que les personnes âgées, par définition, là, ils vont toujours chialer moins. Ils sont souvent isolés. Ils sont souvent avec peu de moyens. Donc, c'est pas des lobbyistes là, très, très forts, les personnes âgées, là, on s'entend. Là, présentement, ils sont devenus par la force des choses. Mais règle générale, OK, un gouvernement va écouter beaucoup plus les Power Corporation de ce monde, les Microsoft de ce monde, puis les jobs à 100 000 piastres, là. C'est ça qu'on écoute.
On va demeurer dans le même sujet. Je vais t'amener sur la gestion de la crise, mais l'approvisionnement. On a vu des commandes qui ont été passées en toute hâte par le fédéral, par le provincial. Et là, on se serait fait avoir, on va avoir des nouvelles plus tard aujourd'hui, par un Américain, reconnu comme un fraudeur d'ailleurs. On lui a passé en US un contrat pour avoir des masques N95 de 14 millions de dollars. Et là, on se serait fait flouer. On recherche toujours l'argent. Peux-tu m'expliquer de quelle façon on peut passer un contrat de 14 millions de dollars à un entrepreneur américain qui est reconnu comme un fraudeur? Puis qui c'est qui est responsable de ça? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'imputabilité?
C'est tellement clair ce qui s'est passé. Ben, premièrement, il y a une catastrophe, OK, qui est arrivée, la pandémie. Puis écoute, moi, je te dirais que sur le 425 milliards du gouvernement fédéral, puis sur le 15 milliards du gouvernement provincial, là, il y a au moins un 10-15% d'argent qui s'est gaspillé pour rien. Puis, on s'entend là-dessus, là. L'avenir nous le dira, mais c'est à peu près ça, les chiffres. Deuxièmement, le seul problème qu'il y a, Robert, là, c'est la structure des gouvernements. L'imputabilité n'existe pas. On lisait dans les journaux, le Journal de Montréal, hein, tu lisais, là, il y a un fonctionnaire, qui est responsable du dossier qui a dit, ben, on n'a pas demandé c'était quoi son passé.
Son pedigree,
c'était pas nous autres à lui demander, c'était à lui à nous le fournir.
Toi, t'es un homme d'affaires, Jean Devaux, là.
Quand tu fais affaire
avec un fournisseur, là, avant d'y envoyer un chèque, là, t'as toujours.
Le fournisseur, là, qui a identifié cette personne-là, puis qui dit qu'il n'y avait pas d'affaires à lui demander, OK, c'était quoi son passé, on peut-tu sacrer ça dehors? On s'entend-tu que c'est un incompétent de la pire espèce? T'as raison. N'importe qui donne des contrats, tu vérifies toujours si ton sous-traitant il est compétent. Si tu fais pas ça, tu mérites pas ta job. On peut-tu le sacrer dehors? Mais on peut pas le sacrer dehors. Parce qu'il est protégé. On va le mettre sur une tablette dans un ministère à quatre pattes où ce qu'il pourra punir, puis il va continuer à engraisser les mamelles de l'État. Ça va être comme ça. Donc le problème, Robert, c'est les conventions collectives qui protègent les incompétents et qui pénalisent les compétents. Qu'on en donne plus à ceux qui font le job, puis ceux qui la font pas, là, on peut-tu les sacrer dehors? Moi, la personne qui a fait ce commentaire-là dans le Journal de Montréal, là, je me demande encore qu'est-ce qu'elle fait au gouvernement matin. C'est épouvantable ce qu'elle a dit. C'était pas nous autres à lui demander. Hey, la tarte! C'était à toi à lui demander. C'est clair que c'était à toi, là.
J'espère qu'on va faire des enquêtes. Parce que, bon, tu sais, l'occasion fait le larron, là. Tu sais, des petits retours d'ascenseur. Écoute, je veux rien insinuer, mais j'espère que quelqu'un...
Tu peux le dire. On le sait que c'est comme ça.
Oui, mais j'espère qu'on va faire des enquêtes en bonne et due forme pour disculper tout le monde, là. Tu sais, j'espère qu'il y en a pas...
On va les faire, Robert, mais on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens. La fonction publique est protégée mur à mur de toutes les façons. Il y a comment de codes d'incompétence qui nous sont mis dans le visage à la semaine. Non, tu sais, ça fait tellement longtemps que tu fais une émission d'affaires publiques. Là. Il y en a comment de codes d'incompétence là, flagrant? Là. Il y en a à la tonne. Et c'est normal parce qu'il y a des milliers et des milliers d'employés. Là. Okay, il y en a autant dans le privé, sauf que dans le privé, ils payent la note. Ils se font mettre dehors ou ils se font accuser carrément. Tandis que dans le public... Ben, l'imputabilité, c'est une notion qui est dépendante du gouvernement qui est en place. C'est une notion qui est assez élastique. Je dirais même, là, qui est caoutchouteuse. Puis, tu sais, ça dépend vraiment comment qu'on file. Ça dépend aussi de la gravité. OK? Ça, écoute, c'est pas grave. C'est juste 14 millions. On a dépensé 15 milliards. Ouais, 14 millions sur 15 milliards. Tu fais le parallèle. C'est sûr que c'est une goutte d'eau. Mais 14 millions, là, demandez à n'importe quel homme d'affaires, là, je demande à ces fonctionnaires-là qui sont complètement déconnectés, là, lâche ta job, là, va te partir une business, là, puis je te demande pas de faire 14 millions de profit, fais juste 14 millions de ventes. Tu vas voir que 14 millions, c'est de l'argent en titi. OK?
Hey, je vais t'amener aux États-Unis. As-tu vu le discours, l'as-tu entendu, l'as-tu vu également, parce qu'il est spectaculaire quand même. Donald Trump qui s'est remis en selle hier devant ses fans. Écoute, on avait l'impression que c'était une foire agricole où on vendait des calottes, toutes sortes de bling-bling à l'effigie de M. Trump. Et là, lui, il dit qu'il a gagné deux fois. Il y a une fois où on lui a volé son élection, mais qu'il va gagner trois fois. Il va revenir dans quatre ans. Crois-tu à ça?
Écoute, je sais pas. Hier, on a assisté à... avant ça, il y avait le veau d'or dans la Bible. Là, il y a le Trump d'or. Je sais pas si tu as vu quand ils l'ont promené dans la salle, là, l'effigie en or de Trump. Écoute, c'est rendu que... C'est quasiment... Si tu regardes ça, Robert, là, je regardais ça hier, là, c'est pas mal le comportement d'une secte. On dira ce qu'on voudra, là. Oui. Tu sais, je dis, c'est pas des gens qui appuient un politicien, là. C'est des gens qui appuient un gourou. Tu sais, ceux qui étaient là hier, là, c'est vraiment ça. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que toutes les gens qui sont là, je parle ceux qui ont le pouvoir de changer les choses avec M. Trump dans le Parti républicain, l'appuient en se pinçant le nez juste parce que les élections de mi-mandat s'en viennent en 2022. Et si en 2022, ben, ils se font ramasser encore, ben là, ils vont le mettre dehors. C'est à peu près ça. Donc, c'est un manque de courage politique, okay? Selon moi, de la part... Tu sais, Ted Cruz, là, lui, il veut s'en aller là en 2024. Il veut être candidat à la présidence. Puis c'est très bien que le 30% de républicains qui sont pro-Trump, il en a besoin pour être élu. Donc, c'est juste pour ça là, qu'il l'appuie, M. Trump. Il n'y a pas d'autre raison. Et ça, je trouve que c'est un manque de jugement politique parce que tu devrais faire de la politique pour les bonnes raisons. Et je pense que les Républicains, présentement, et les démocrates aussi, disons-le, ils ne sont pas blancs comme neige ou loin de là, je pense que la politique américaine, maintenant, surtout avec toutes les PAC, OK, les Public Action Committee, maintenant, qui peuvent dépenser sans compter puis sans rendre de compte, c'est rendu maintenant une affaire de gros sous. C'est rendu juste une affaire de lobbyistes. Écoute, une campagne électorale américaine, maintenant, là, à la présidence, ça coûte 5 milliards, là, avec les deux partis. Tu te rends compte qu'il n'y a plus personne qui peut faire ça, à part quelques privilégiés qui sont connectés partout puis qui siphonnent l'argent à coups de centaines de millions, et c'est sûr qu'il y a des retours d'ascenseur. Donc, si la politique américaine ne change pas, je suppose que ce pays-là s'en va au niveau politique, mais je peux te dire une chose, c'est que ça n'augure pas des jours là, bienveillants là, pour la politique, là, pour le petit peuple, pour le monde ordinaire, pour la classe moyenne, qui a toujours été la colonne vertébrale de l'économie américaine.
En terminant, okay. Tiens, plus que tu parles de la classe moyenne, qu'est-ce que tu penses de l'idée de Québec solidaire d'augmenter l'imposition des plus nantis de 50%?
Mon Dieu. Moi, Québec solidaire, j'appelle Québec solitaire. Okay? Écoute, c'est tellement... Écoute, l'analyse qu'on en fait, là, un étudiant d'économie 101 au secondaire peut démolir les arguments qu'ils ont. Écoute, présentement, on veut juste rajouter 90 000 travailleurs au réseau public. Donc, une augmentation de 17% de la main-d'œuvre du réseau public. On veut juste... Les compagnies qui font 500 000 de profit, selon eux autres, c'est des grosses compagnies. Une compagnie qui fait 5 millions de chiffre d'affaires et qui fait 500 000 de profit, c'est juste 10% de profit. Tu appelles ça une grosse compagnie, une compagnie de 5 millions? Je pense qu'une compagnie, une grosse compagnie, là, selon les standards là, de tout gouvernement québécois que j'ai connu dans le passé, là, ça commence à peu près à... Une PME, c'est petit. Une ME, c'est en haut de 75-100 millions. Puis les grosses compagnies, c'est 300-400 millions. C'est comme ça que ça marche. Il y a 37% d'impôts de plus payés par les compagnies du Québec versus la moyenne canadienne. Ça, c'est des fêtes, là. Et avec toutes les foleries qu'ils font, ils ramassent 9,9 milliards pour payer toutes les dépenses qu'ils veulent nous annoncer. On fait quoi avec les déficits de 7-8 milliards qui sont annoncés pour les 5 prochaines années? Il manque encore 7-8 milliards, là. Ça, c'est de la pensée magique, là. On s'imagine que ça va arriver puis ça va tomber du ciel. La meilleure façon de taxer les compagnies, c'est pas l'impôt sur le revenu des compagnies qu'il faut que tu taxes. C'est l'impôt des actionnaires. Qu'on enlève les stock options, qu'on enlève tous les échappatoires fiscaux, qu'on commence par appliquer la loi de l'impôt qu'on a déjà et qu'on n'applique pas. Ça va déjà aider beaucoup. Je trouve que c'est même plus du pelletage de nuages, là. Là, c'est vraiment, là, un monde de Walt Disney, là. C'est un monde totalement inventé. Ça ne tient pas la route pendant 30 secondes. T'analyses le chiffre, là. Écoute, je sais pas c'est qui sont les conseillers économiques, là. Mais pensez que lever 9,9 milliards d'impôts sur les plus riches et sur les compagnies, ça n'affectera pas l'économie du Québec parce que eux autres, ils présupposent qu'il n'y aura pas de baisse, là.
Oui, c'est ça.
Qui présuppose que toutes les compagnies vont continuer à payer autant d'impôts, sinon plus, et que toutes les riches vont payer autant d'impôts, sinon plus.
Et qui vont rester au Québec, et qui vont rester au Québec, qui n'auront pas le goût de sacrer le camp.
Ben oui, il n'y a rien de plus frileux qu'un million de dollars. Ça, je l'ai toujours dit, là. Et il faut être compétitif. Mais comme je te dis, qu'on commence par appliquer la loi de l'impôt qu'on a déjà, qu'il ne l'ait pas appliquée, là. Ça va déjà être un début. Et oui, présentement, là, les riches, là, payent. Bon, si on parle, là, de l'approche de QS, là, les riches, là, 44% de l'impôt sur le revenu actuel est payé par les gens qui gagnent 100 000 $ et plus, ce qui représente même pas, je pense, c'est 11% de la population. Donc, t'as 11% de la population, on s'entend-tu, là, que 100 000 $ de revenu, là, quand tu restes à Montréal, là, je rappelle pas ça riche, moi, là.
T'es pas
là.
Tant que ça.
En tout cas, c'est pas ma définition d'un riche que moi j'ai, mais c'est sûr que Québec solidaire, quand tu promènes en gogoun pis en scooter, ben là, c'est sûr que là, c'est
Arrête, tu vas te faire tirer des tomates. Je te souhaite de passer une très belle fin de journée. On se retrouve demain.
Ta mère, salut.
Bye. Jean Deveau vient avec nous autres le lundi et le mardi commenter l'actualité.